Chapitre 2e. Olivier Raymond, jeune homme de 24 ans ou plus, avait une physionomie attrayante, expressive. Sa courte veste d'uniforme en drap blanc, rehaussée du ruban rouge, écotelée de brandebourgs de laine d'un jaune d'or, son pantalon bleu de ciel, faisait parfaitement valoir sa taille souple, élégante et mince, tandis que son petit képi, aussi bleu de ciel, posé de côté sur sa courte chevelure, d'un châtain clair comme sa moustache retroussée et sa large impériale, achevait de donner à sa personne une tournure coquettement militaire. Seulement, au lieu d'un sabre, Olivier tenait ce jour-là sous son bras gauche une grosse liasse de papier et à sa main droite un formidable paquet de plumes. Le jeune sous-officier, ayant déposé ses pacifiques engins sur une table, s'écria joyeusement « Bonjour, madame Barbançon. » Et il osa serrer entre ses 10 doigts la taille osseuse de la ménagère. « Voulez-vous bien finir, mauvais sujet ?»« Ah bien oui, je ne fais que commencer. Il faut que je vous séduise, madame Barbançon. » »« Me séduire, moi ?»« Absolument. C'est indispensable, j'y suis forcé. » »« Et pourquoi ?»« Pour que vous m'accordiez une grâce, une faveur. » »« Voyons, qu'est-ce que c'est ?»« D'abord, où est mon oncle ?» A fumé sa pipe sous sa tonnelle. Bon, attendez-moi là, maman Barbançon, et préparez-vous à quelque chose d'inouï. À quelque chose d'inouï, monsieur Olivier? Oui, à quelque chose de monstrueux, d'impossible. De monstrueux, d'impossible? Répéta madame Barbançon, tout ébahie, en voyant le jeune soldat se diriger vers la tonnelle. Bonjour, mon enfant, je ne t'attendais pas si tôt, dit le vieux marin en tendant la main à son neveu avec une joyeuse surprise. « Déjà de retour, tant mieux. »« Tant mieux, tant mieux, » reprit gaiement Olivier. « Au contraire, car vous ne savez pas ce qui vous menace. »« Voyons, mon oncle, du courage. »« Finiras-tu, fou que tu es ? » ?»« Fermez les yeux et en avant. »« En avant. »« Où ? Contre qui ?»« Contre maman Barbançon, mon brave oncle. »« Pourquoi faire ?»« Pour lui annoncer que j'ai invité quelqu'un à dîner. »« Ah, diable !» fit le vétéran. Et il recula d'un pas sous sa tonnelle, au seuil de laquelle il se trouvait alors. « À dîner, aujourd'hui, » poursuivit le sous-officier. « Ah, fichtre !» fit le vétéran. Et cette fois il recula de 3 pas sous sa tonnelle. « Et de plus, » poursuivit Olivier, « mon invité est un duc. »« Un duc, nous sommes perdus !» fit le vétéran. Et il se réfugia au plus profond de son antre de verdure, où il parut vouloir se maintenir comme dans un fort inexpugnable. « Que le diable me brûle si je me charge d'aller annoncer ton invitation à maman Barbançon. »« Comment, mon oncle, la marine, recule ?»« C'est un coup de main, une affaire d'avant-poste. Ça regarde la cavalerie légère. Tu n'es pas hussard pour rien, mon garçon. Allons, va, enlève-moi ça, enfourageur. Justement, la voilà là-bas. »« Madame Barbançon, la vois-tu ?»« Justement, elle est à côté du bassin. » Ça retombe dans votre élément, dans les opérations navales. Allons, mon oncle, à l'abordage. Ah, mon Dieu, elle vient, la voilà, s'écria le vétéran en voyant la ménagère qui, très intriguée par les quelques mots d'Olivier, s'approchait dans l'espoir de satisfaire sa curiosité. Mon oncle, dit résolument le jeune soldat, au moment où madame Barbançon parut au seuil de la tonnelle, toute retraite nous est coupée. « Mon invité arrive dans 1 heure au plus tard. Il s'agit de vaincre ou de mourir de faim. Nous et mon invité, dont il faut au moins que je vous dise le nom. C'est le duc de Sainte-Terre. »« Ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela, malheureux, » reprit le commandant. « C'est à maman Barbançon, car la voici. » À l'approche de la redoutable ménagère, Olivier s'écria. « Maman Barbançon, mon oncle a quelque chose à vous dire. Moi, du diable si c'est vrai, par exemple. » reprit le vétéran, en s'essuyant le front avec son mouchoir à carreaux. « C'est toi qui as à lui parler. »« Allons, mon oncle. Maman Barbançon n'est pas si terrible qu'elle en a l'air. Avouez-lui la chose en douceur. C'est ton affaire, mon garçon, arrange-toi. » La ménagère, après avoir regardé alternativement l'oncle et le neveu avec une curiosité mêlée d'inquiétude, dit enfin à son maître « Qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur ?»« Demandez cela, Olivier, ma chère. Quant à moi, je n'y suis pour rien. Je m'en lave les mains. » « Eh bien, maman Barbançon, » dit intrépidement le jeune soldat, « au lieu de 2 couverts pour notre dîner, il faudra en mettre 3, voilà. » Comment ? Trois couverts, monsieur Olivier ? Pourquoi trois ?
Parce que j'ai invité à dîner un ancien camarade du régiment.
Jésus, mon bon Dieu !
S'écria la ménagère avec plus d'effroi que de courroux, en levant les yeux au ciel. Un invité !
Et ce n'est pas le jour du pot-au-feu ? Nous n'avons qu'une soupe à l'oignon, une vinaigrette du bœuf d'hier et une salade.
Eh bien, que voulez-vous donc de plus, maman Barbançon ? Dit joyeusement Olivier, qui s'était attendu à trouver la ménagère bien autrement récalcitrante.
Une soupe à l'oignon confectionnée par vous, une vinaigrette et une salade assaisonnée par vous, c'est un repas des dieux. Et mon camarade Gérald se régalera comme un roi.
Remarquez bien que je ne dis pas comme un empereur, maman Barbançon.
Cette délicate allusion aux opinions anti-bonapartistes de madame Barbançon passa inaperçue. À ce moment, la rancuneuse amante du Vélite disparaissait devant la ménagère. La ménagère reprit donc avec un accent de récrimination douloureuse.
« Ne pas avoir choisi le jour du pot-au-feu, ça vous était si facile, monsieur Olivier. »«
Ce n'est pas moi qui ai choisi le jour, maman Barbançon, c'est mon camarade. »«
Mais, monsieur Olivier, tous les jours, dans la société, on se dit sans façon, ne venez pas aujourd'hui, mais venez demain, nous aurons le pot-au-feu. »«
Après tout, on n'est pas entre duc et pair. »
Olivier eut envie de porter à son comble l'angoisse de la ménagère en lui disant que, justement, c'était un duc qui allait venir manger sa vinaigrette. Mais ne voulant pas mettre à cette rude épreuve l'amour-propre culinaire de madame Barbançon, il se contenta de lui dire
« Le mal est fait, maman Barbançon. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas me faire affront devant un ancien camarade de l'armée d'Afrique.
Jésus, mon Dieu ! Pouvez-vous craindre cela, monsieur Olivier ? Vous faire affront, moi ? C'est tout le contraire. Car j'aurais voulu que...
Il se fait tard, dit Olivier en interrompant ses doléances.
Mon ami va arriver avec une faim de soldat.
Ah, madame Barbançon, ayez pitié de nous.
C'est pourtant vrai, dit la ménagère, je n'ai pas un moment à perdre.
Et la digne femme s'éloigna en hâte, répétant avec douleur,
n'avoir pas choisi le jour du pot-au-feu.
Ouf, dit le vétéran lorsque la ménagère fut partie, je respire.
Eh bien, elle a pris ça beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. Tu l'as ensorcelée.
Mais à nous deux maintenant, monsieur mon neveu.
Tu ne pouvais pas me prévenir afin que ton ami trouvât au moins ici un dîner passable. Tu l'invites ainsi à Brûlebourg, et c'est un duc par-dessus le marché. Mais dis-moi, comment diable as-tu un duc pour camarade dans les chasseurs d'Afrique ?
En deux mots, voici l'histoire, mon oncle. Je vous la dis parce que vous aimerez tout de suite mon ami Gérald, car il n'y en a pas beaucoup de cette race et de cette trempe-là, je vous assure. Lui et moi, nous avions été camarades de classe au collège Louis-le-Grand. Je pars en Afrique. Au bout de 6 mois, qui est-ce que je vois arriver au quartier ? Nous étions alors à Oran. Mon ami Gérald, en veste et en pantalon d'écurie. Simple cavalier.
Simple cavalier.
Comment ? Grand seigneur et riche sans doute, il n'est pas entré à Saint-Cyr.
Non, mon oncle.
Un caprice alors ? Un coup de tête ?
Non, mon oncle.
Dit Olivier avec un accent pénétré. La conduite de Gérald a été au contraire parfaitement réfléchie. Il est en effet très grand seigneur de naissance, puisqu'il est, je vous l'ai dit, duc de Sainte-Terre.
Oui, l'on voit souvent ce nom-là dans l'histoire de France, reprit le vieux marin.
C'est que la noblesse de la maison de Sainte-Terre n'est pas seulement ancienne, mais illustre, mon oncle. Du reste, la famille de Gérald a perdu la plus grande partie de l'immense fortune qu'elle avait autrefois. Il leur reste, je crois, 40 000 livres de rente. C'est beaucoup pour tout le monde, mais c'est peu, dit-on. Pour des personnes d'une grande naissance, et d'ailleurs, Gérald a 2 sœurs, à marier.
Ah ça ! Dis-moi comment et pourquoi ton jeune duc s'est fait soldat ?
D'abord, mon oncle, ce brave garçon est fort original, fort spirituel, et il a toutes sortes d'idées à lui. Ainsi, lorsqu'au sortir du collège, Gérald s'est trouvé en âge d'être atteint par le recrutement, son père, il avait encore son père, lui a dit tout naturellement qu'il allait mettre à une bourse d'assurance afin de le garantir contre les chances du sort. Savez-vous ce qu'a répondu ce singulier garçon ?
Voyons un peu.
« Mon père, a dit Gérald, il est un impôt que tout homme de cœur doit payer à son pays, c'est l'impôt du sang. Surtout lorsqu'on se bat quelque part. Je trouve donc ignoble de vouloir échapper, moyennant finance, au danger de la guerre en achetant un pauvre diable qui s'arrache à son champ ou à son métier pour risquer d'aller se faire tuer à votre place. » Acheter un homme, c'est, passez-moi le terme, se donner un brevet de Jean-Foutre avec privilège du gouvernement. Or, comme je ne suis pas jaloux de ce privilège-là, si j'ai un mauvais numéro, je partirai soldat. Ah, pardieu, j'aime déjà ton jeune duc, s'écria le vétéran. N'est-ce pas, mon oncle, que c'est vaillamment pensé ? Reprit Olivier avec une expression d'orgueil amical. Quoique cette résolution lui parût très étrange, le père de Gérald était trop homme d'honneur pour la combattre. Gérald est tombé au sort, et voilà comment il est arrivé simple cavalier au chasseur d'Afrique, pansant son cheval, étant de corvée ou de cuisine tout comme un autre, faisant rondement son métier, et allant sans maudire à la salle de police, s'il s'attardait sans permission. En un mot, il n'y avait pas de meilleur cavalier dans son peloton. « Et avec ça, crânement brave, hein ?» dit le vétéran de plus en plus intéressé. « Brave comme un lion, et si brillant, si gai, si entraînant dans une charge, que son entrain aurait mis le feu au ventre à tout un escadron. Mais avec son nom, ses protections, il a dû devenir vite officier. Il l'aurait été probablement, quoiqu'il ne s'en souciât pas beaucoup, car une fois son temps fait, sa dette payée, comme il disait, il voulait revenir jouir de la vie de Paris, qu'il aimait passionnément. Brave et singulier garçon que ton jeune duc. Au bout de 3 ans de service, poursuivit Olivier, Gérald était, comme moi, maréchal des logis-chefs, lorsqu'ayant témérairement chargé un groupe de cavaliers rouges, il a eu l'épaule cassée d'un coup de feu. Heureusement, j'ai pu le dégager et le ramener mourant sur mon cheval. Mais la blessure de Gérald a eu de telles suites qu'il a été réformé. Alors, quittant le service, il est revenu habiter Paris. Déjà liés par nos souvenirs de collège, nous étions devenus intimes au régiment. Nous avons continué de correspondre. J'espérais le voir à mon arrivée ici, mais j'appris qu'il était allé faire un voyage en Angleterre. Ce matin, je passais sur le boulevard de Monceau. Lorsque j'entends qu'on m'appelle à tue-tête, je me retourne. Je vois Gérald sauter d'un élégant cabriolet, courir à moi et nous nous embrassons, ajouta Olivier avec une légère émotion. Ma foi, nous nous embrassons comme deux amis s'embrassent à la guerre, après une chaude affaire. Vous savez ça, mon oncle. À qui le dis-tu, mon enfant ? Il faut que nous dînions et que nous passions la soirée ensemble aujourd'hui, m'a dit Gérald. Où loges-tu ? Chez mon oncle. Je lui ai 100 fois parlé de vous. Il vous aime presque autant que moi, dit Olivier en tendant la main au vétéran. Eh bien, j'irai dîner avec vous deux, reprit Gérald. Ça va-t-il ? Tu me présenteras à ton oncle. J'ai 1000 choses à te dire. Sachant combien Gérald est simple et bon garçon, j'ai accepté sa proposition, le prévenant que mes écritures me forceront à le quitter à 7 heures, ni plus ni moins que si j'étais clerc d'huissier, dit gaiement Olivier, ou que si j'étais obligé de retourner au quartier. Brave enfant que tu es, dit le commandant à Olivier. Je me fais une joie de vous présenter Gérald, mon oncle, certain que vous serez tout de suite à l'aise avec lui. Et puis enfin, dit le jeune soldat en rougissant légèrement. Gérald est riche, je suis pauvre. Il connaît mes scrupules, et comme il sait que je n'aurais pas pu payer mon écho chez quelques fameux restaurateurs, il a préféré s'inviter ici. Je comprends ça, dit le vétéran. Et ton jeune duc montre la délicatesse d'un bon cœur en agissant ainsi. Qu'au moins la vinaigrette de maman Barbançon lui soit légère, ajouta joyeusement le commandant. À peine avait-il exprimé ce vœu philanthropique que la sonnette de la porte de la rue retentit de nouveau. Bientôt, l'oncle et le neveu virent Gérald, duc de Sainte-Terre, s'avancer dans une des allées du jardinet. Madame Barbançon, l'air affairé, le regard inquiet et décoré de son tablier de cuisine, précédait le convive improvisé.